Chapitre 5e. Au bout de quelques minutes, on me pria de m'asseoir et d'attendre. Un homme, un inspecteur sans doute, vint s'installer à côté de moi. Au bout d'une demi-heure, mes tempes ressaisies, il le fallait, sans quoi j'étais perdu, je lui dis « Bonjour, vous savez bien que je ne suis pas celui que vous cherchez. » Il me répondit qu'il le savait bien, ce qui me surprit. Dans le tête-à-tête, les gens sont beaucoup plus gentils. Enhardi, je proposai à ce policier, s'il me laissait filer, de lui donner tout ce que j'avais d'argent sur moi. Il me fit non de la tête, mais sans la moindre indignation. J'insistai, croyant comprendre qu'il voulait se faire prier. Il refusait toujours, avec mollesse. Je lui dis qu'entre Français nous devions nous soutenir, que personne n'en saurait jamais rien. Comme il avait l'air sur le point d'accepter, je tirai mon portefeuille et lui offris 2000 francs qui s'y trouvaient. Mais il me repoussa la main, non pas avec un air scandalisé, mais avec un air paternel, comme s'il ne voulait pas d'un argent dont je pouvais avoir plus besoin que lui. Je lui dis que cela ne me privait pas, que je pouvais lui en donner d'autres s'il le voulait. Il refusait toujours de l'air d'un homme qui ne veut pas donner une mauvaise idée de lui-même. Je lui dis de ne pas s'imaginer que mon estime pour lui s'en trouverait diminuée, qu'à sa place j'aurais accepté aussi. Il s'agissait de le mettre à l'aise à l'égard de son amour-propre. Qu'il avait peut-être une femme et des enfants, qu'il n'était pas très bien payé, que personne n'en saurait rien, mais il refusait toujours. Je le supplie encore, ce fut inutile. Une heure plus tard, je fus conduit devant un homme qui avait l'air d'être le chef de tous ceux que j'avais approchés jusqu'alors. Je subis un court interrogatoire d'identité. Je soutins jusqu'au bout que je ne m'appelais pas Talouet, mais Tinet. Finalement, on me tendit un procès-verbal à signer. Quelle ne fut pas ma surprise d'y lire que j'avais tenté de corrompre un inspecteur en lui offrant de l'argent. Je fus tellement furieux que, sans réfléchir, je m'écriai que c'était un abominable mensonge, que jamais je ne lui avais rien offert. Le commissaire fit appeler l'inspecteur et lui dit que je prétendais que je ne lui avais rien offert. « Vous ne m'avez rien offert, » me dit l'inspecteur sur un ton de franchise tel que je me troublais. « Non, je ne vous ai rien offert, » dis-je en sentant que je mentais visiblement. « Vous osez me dire que vous n'avez rien offert ?» continua l'inspecteur avec une sincérité si profonde qu'il était évident qu'il disait la vérité. Je n'avais encore jamais eu affaire à la justice. Je m'imaginais que ma parole avait autant de valeur que celle d'autrui, qu'on n'avait pas le droit de croire mon interlocuteur plus que moi. Aussi fut-ce avec surprise que je vis le commissaire approuver l'inspecteur à la suite de cette confrontation. Il ne faisait aucun doute que je mentais. Alors il m'apparut tout à coup que je m'étais mis sur un mauvais terrain. « Puisque c'est comme ça, je vais dire la vérité. » Je dis au commissaire qu'en effet, j'avais offert de l'argent. Dans ma fureur, j'espérais ainsi discréditer cet inspecteur, l'entraîner avec moi dans ma chute. C'était la vérité. Je l'avais nié parce que l'attitude de l'inspecteur m'avait mis hors de moi. Mais j'ajoutais que si j'avais offert cet argent, c'est parce que j'avais été encouragé à le faire et que dans sa conscience, l'inspecteur devait savoir qu'il n'avait rien fait pour m'en empêcher. Le commissaire m'écouta avec attention. Je crus au soin qu'il mettait à ne pas m'interrompre que je l'avais gagné à ma cause, mais quand j'eus terminé, il me demanda simplement, de l'air d'un homme qui ne veut pas entrer dans les détails, « Est-ce qu'il a accepté ou non ?» Je fus bien obligé de dire non. « Alors qu'est-ce que vous lui reprochez ?» Cette histoire, il faut bien le dire, me valut la sympathie secrète d'un agent qui avait assisté à la scène. Il vint me dire en cachette qu'il ne fallait pas que je perdisse courage. Un peu plus tard, comme je me retrouvais assis sur un banc dans le couloir, j'entendis parler. Je vis un des policiers me regarder, non plus avec ce regard indifférent qu'il porte à tous les criminels, mais avec un regard d'homme qui ne songe plus à sa fonction. J'ai souvent surpris ce regard chez les policiers, comme si la profession qu'ils exercent est tellement abjecte que chaque fois qu'ils sont simplement curieux ou intrigués, ils n'ont plus l'air d'être de la police. Je fis semblant de ne pas m'en apercevoir. Je n'avais qu'une idée, profiter d'une occasion pour fuir. Et pour qu'on ne le devinât pas, je faisais semblant d'être encore sous le coup de la colère. De temps en temps, je serrais les poings, comme si j'allais voulu me battre avec l'inspecteur qui m'avait trompé, ou bien je faisais semblant de marmonner tout seul, ou bien encore je criais à haute voix que je n'oublierais jamais cela. On me conduisit ensuite dans une grande salle. J'avais l'impression que si je voulais me sauver, c'était le moment. Je me disais qu'après, une fois écroué, ce serait plus difficile, car je serais alors uniquement entre les mains de gens dont la seule fonction est de garder les prisonniers. mais à présent il y avait encore des gens qui entraient et sortaient librement autour de moi. Je devais donc m'évader tout de suite, mais j'attendais une occasion meilleure, comme en Allemagne. Je n'avais qu'une idée, profiter d'une occasion, et cela suffisait à me faire garder mon calme. Je parlais à mes gardiens, je leur disais que c'était honteux de faire le travail des boches. Ils ne savaient pas quoi répondre. J'avais l'impression qu'ils étaient de mon avis, qu'ils étaient gênés, que certains d'entre eux étaient capables de cette générosité qui m'a toujours ému le plus, celle que me témoigna, il y avait quelques mois, cet inspecteur qui, alors qu'on faisait le tri des gens pris dans une rafle, sans raison, simplement parce que je lui plaisais sans doute, me prenant par le bras et me poussant dehors, dit « Vite, allez-vous-en ». Tout à coup, on me donna l'ordre de me lever. J'aperçus l'inspecteur qui m'avait arrêté. Il s'en allait, une cigarette à la bouche. Je le regardais, mettant dans mon regard tout ce que je pouvais pour lui faire comprendre qu'il ne l'emporterait pas en paradis. Mais il avait cet air complètement indifférent d'un homme sur qui sa fonction attire souvent des haines, mais qui a la conscience tranquille. Malgré l'agitation qui m'entourait, je fis un examen de ma situation. Je me rendais bien compte qu'à la façon dont j'avais réagi au moment de mon arrestation, j'avais plutôt l'air coupable. Sous le choc de la surprise, je n'avais pas protesté. J'avais paru trouver tout naturel qu'on vînt me chercher. J'avais même prononcé certaines paroles qui ne laissaient aucun doute sur ma culpabilité. Je me demandais à présent si cela avait de l'importance. Il y avait une chose que j'ignorais, c'était dans quelle mesure le fait de nier d'avoir prononcé telle ou telle parole aggravait ou non le cas d'un prévenu. Si l'on répétait ce que j'avais dit et que je feignisse de l'étonnement, est-ce que la justice en tiendrait compte? J'avais besoin de conseils. Je ne devais plus parler avant d'avoir vu un avocat, mais le fait même de formuler une pareille exigence n'était-il pas en ma défaveur? Évidemment, l'avocat m'approcherait. C'est alors que je me demandais avec angoisse s'il n'était pas préférable d'agir d'après mon instinct. Mais le faire dans un monde dont j'ignorais tout, n'était-ce pas présomptueux? Je n'avais peut-être pas besoin d'avocat, et pourtant, je sentais que je n'aurais pas le courage de faire quoi que ce fût sans en consulter un. J'avais beau m'interroger, je ne savais que faire. Je me sentais plus gêné par toutes ces questions que par les policiers qui me gardaient. Je me disais que si je voulais me tirer d'affaire, il fallait que je conserve tout mon sang-froid et que je ne me laisse pas impressionner par le fait que j'étais captif. Plutôt que de chercher à démêler ce que je devais dire ou ne pas dire, je devais m'efforcer de ne pas me frapper du fait que j'étais entre les mains de la justice. Et je pensais que dans une situation comme la mienne, la perte de la liberté physique ne devait pas avoir d'importance. Il faut être prêt à la perdre momentanément. Si en la perdant, on assure l'avenir. Rien ne prouvait que j'étais celui qu'on cherchait. « Je m'appelle Tinet, je m'appelle Tinet », répétais-je sans arrêt. Nous nous apprêtions à quitter le commissariat lorsque l'inspecteur qui m'accompagnait en s'éventant je ne sais trop pourquoi avec les papiers qu'il tenait à la main s'arrêta pour échanger quelques paroles avec un de ses collègues. Au bout du couloir se trouvait une porte ouverte. Plus loin, l'escalier. Quelques personnes, formant groupe, gênaient le passage. Je continuais à avancer, les yeux fixés sur cette porte, sans paraître m'apercevoir que mon gardien s'était arrêté. Brusquement, je me décidai à tenter ma chance, à fuir. Mais à peine eus-je fait quelques pas que j'étais déjà repris. Le policier se mit dans une colère indescriptible. Quand je lui dis que je n'avais jamais eu l'intention de me sauver, il me demanda si je le prenais pour un imbécile. Et pendant plusieurs minutes, levant à chaque instant la main, me menaça, sans aller cependant jusqu'à me frapper. Il me reconduisit auprès de M. Hulot, le commissaire de police. On m'avait déjà fait signer un procès-verbal. Les deux hommes se demandaient si cela valait la peine de le recommencer, pour y mentionner ce qu'ils appelaient ma tentative d'évasion. L'incroyable était que tous ces hommes étaient des Français. J'avais envie de crier « Ne sommes-nous pas tous des Français ?» Je m'en gardais bien. Ils ne se seraient plus contentés de me menacer. Dans leur esprit, c'était à cause d'individus comme moi que l'occupation était si dure. En essayant de fuir, en me défendant, je me conduisais en mauvais français, et je risquais de faire punir à ma place de pauvres innocents. Si j'étais si courageux, je n'avais qu'à me battre avant. Maintenant, c'était un peu tard. Il ne restait plus aujourd'hui qu'à tâcher de s'en tirer avec le moins de mal possible. On se chargerait de me le faire comprendre. La découverte de cette façon de penser me plongea dans une grande perplexité. J'avais cru que j'aurais le beau rôle, qu'on ne saurait comment s'y prendre pour m'inculper, qu'on n'oserait même pas me regarder dans les yeux, tellement on serait gêné de m'avoir arrêté. Et je m'apercevais tout à coup que mon crime était un crime véritable pour tout le monde. Au lieu de subir le sort de mes compatriotes, j'avais voulu me tirer d'affaire. Ce que j'avais fait n'avait rien à voir avec le patriotisme. À cause de moi, d'autres prisonniers étaient peut-être au cachot. Et j'essayais de me sauver. C'était un comble. À un moment, je ne pus cependant m'empêcher de crier que c'était une honte d'agir ainsi entre Français. Le policier eut alors une expression que je n'oublierai pas. On nous dit que vraiment, Français, lui, il n'accepterait pas un blâme sur un sujet pareil, et je sentis qu'il m'aurait tué s'il l'avait pu. En repassant dans le couloir, l'inspecteur me dit que M. Hulot avait été bien gentil, mais que si je recommençais à jouer ce petit jeu-là, ça me coûterait cher. J'étais entouré de policiers. Souvent, j'avais vu des malfaiteurs dans la rue, opposés de la résistance à plus forte partie qu'eux. J'avais toujours pensé qu'ils étaient fous. Comment peut-on opposer de la résistance quand on sait qu'elle est vouée à un échec? Ce fut pourtant ce que je fis dans l'affolement où je me trouvais. Sans me rendre compte de la gravité de mon acte, je me précipitai vers la porte. Deux policiers m'empoignèrent. Alors, sans le moindre espoir de triompher, je me débattis, je criais, j'appelais au secours. Un instant, je parvins à me dégager. Mais un simple croc en jambe me fit tomber. Plusieurs hommes se jetèrent sur moi. Je luttais de toutes mes forces. J'essayais de mordre, sans y parvenir d'ailleurs. Et plus je recevais de coups, plus je luttais. Bientôt, je fus immobilisé. J'éprouvai alors une sensation affreuse, une sensation de cauchemar, celle de ne plus pouvoir respirer. J'allais mourir étouffé. J'essayais de crier encore, mais tant de gens étaient couchés sur moi que cela me fut impossible. Je m'évanouis. Quand je revins à moi, j'étais seul dans une cellule. Une manche de mon veston s'était arrachée de l'épaule, mais demeurait à mon bras comme un bracelet. Je n'avais plus de colle. Ma chemise était déchirée et un lambeau pendait devant moi jusqu'à mes genoux. Mon visage était couvert de bosses énormes et brûlantes. Elles ne me faisaient pas mal. J'avais un goût de sang dans la bouche. Je me levai. Je vis alors une petite lucarne grillagée, mais placée si haut que je ne pouvais l'atteindre. Je cherchais une chaise. Il n'y en avait pas. Je m'approchai de la porte. Empoignant les barreaux du guichet, je m'efforçais de secouer cette porte, mais elle remuait à peine, insuffisamment pour lui imprimer le mouvement de va-et-vient qui, à la longue, eût pu la déceler. Je fis le tour de la cellule une vingtaine de fois en frottant les murs de mes mains, en les frappant avec l'espoir d'entendre un son creux. Puis je m'arrêtai en dessous de la lucarne, la tête levée. J'essayais de sauter. Je me disais que si je pouvais m'accrocher au barreau, peut-être en était-il un de moins bien scellé que les autres. Mais il s'en fallait d'un mètre pour que je pusse les atteindre. Une idée traversa alors mon esprit. J'ôtai une de mes chaussures, ma chemise. Je fis avec ma chemise, en la tordant, une lanière que j'attachai au milieu de la chaussure. Et je lançai la chaussure jusqu'à ce que je parvinsse à la faire passer à travers les barreaux. Puis je tirai doucement pour qu'elle se coinçât. Quand elle fut coincée, je montai à la force des poignets, mais au moment d'atteindre le soupirail, la chemise se rompit et ma chaussure tomba de l'autre côté. Je recommençai avec la chaussure qui me restait. Cette fois, je réussis à atteindre les barreaux, mais ils étaient aussi solides que ceux de la porte. Alors, je fus la proie d'un découragement qui dura de longues heures. Tout à coup, je me redressai. Mon abattement n'avait heureusement pas duré. Je voyais clair. Je me rendais compte que j'avais agi comme un insensé, que tout ce que j'avais fait était justement le contraire de ce qu'il fallait faire si je voulais me tirer de là. J'aurais toujours dû rester un monsieur correct, demander comme une faveur des adoucissements, considérer la perte de ma liberté non pas comme la considère un sauvage ou un animal, mais comme une chose abstraite, par laquelle il fallait passer évidemment, mais qui n'avait aucune réalité. J'aurais dû me laisser conduire dans la cellule, m'arrêter au milieu avec l'air surpris qu'on pût me mettre là, demander si je ne pouvais pas avoir une couverture, demander quand on viendrait me chercher, combien de temps on me laisserait là, enfin ne pas avoir l'air d'être impressionné. Il n'y avait qu'une seule lutte possible, c'était la lutte juridique. Il fallait rester en dedans de mon action et non tout donner d'un seul coup. En me conduisant ainsi, la police eût regardé à deux fois avant d'agir contre moi, tandis que dans l'état où j'étais à présent, elle ne se gênerait pas. « Il n'est jamais trop tard pour bien faire, » me dis-je. Mais, une heure plus tard, je me dis que j'étais bel et bien en prison, que ce fût symbolique ou non. Ce qui me surprit, c'est que quand on vint me chercher pour me conduire à la police judiciaire, personne ne fit attention à mon état. On me demanda, comme à un homme normal, si je voulais signer je ne sais quel papier. Je songeais à répondre que je voulais consulter un avocat d'abord. En me voyant dans cet état, l'avocat voudrait le faire constater. J'hésitais. M'attaquer à ceux entre les mains de qui je me trouvais me paraissait bien téméraire.